dans le cadre des portraits des veilleurs de mémoire initiés par la collectivité européenne d'Alsace, nous avons rencontré Jean-Louis Porcher, veilleur de mémoire au cimetière juif de Saverne. Il nous parle de ce lien qui l'unit à ce lieu depuis si longtemps.
Alors le lien, c'est un lien qui est très ancien, puisque avec mes parents, quand j'étais enfant, on venait ici pour chercher des châtaignes. Et au fur et à mesure, comme je suis aussi pour drapeau d'une association d'anciens combattants, je porte le drapeau à toutes les cérémonies de la commémoration de la Shoah. Et en 2004, j'ai été outré et vraiment scandalisé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie du cimetière qui a été profanée. Et depuis 2004, en plus comme j'habite juste à côté, je venais pratiquement tous les 2-3 jours vérifier ce qui se passait, parce que après il y a eu sa réunion, il y a eu beaucoup de profanation dans la région. Et au fur et à mesure, je venais, je surveillais, et puis je me disais, tiens, il faudrait quand même qu'on mette quelque chose en place. Et puis j'avais discuté avec M. Kahn, et puis il m'avait dit, effectivement, il va y avoir ce qu'on appelle les veilleurs des mémoires qui vont être mis en place. Et depuis 5 ans, officiellement, je suis veilleur de mémoire. Je me promène tous les jours puisque j'habite à 200 mètres du cimetière et puis j'en profite parce que c'est vraiment un bel endroit. C'est d'un calme, il y a des animaux, il y a des cerfs, des biches, des renards et ainsi de suite. Et puis c'est vraiment un plaisir et puis je rencontre des gens et puis les gens, je leur explique un peu comment ça se fait que le cimetière est dans cet état-là, puisque tout le monde pense qu'il est abandonné. Je ne dis pas du tout. Il a été créé en 1632, il a 1 hectare, et puis, comme vous pouvez le constater, il est en forte pente. Et moi, ce que j'aime, c'est la nature, c'est le contact avec toutes ces belles pierres. C'est quand même un patrimoine qui est quand même formidable, qu'on a à portée de la main. Et malheureusement, des fois, il y a des gens qui sont tellement bêtes, est tellement ignorant et qui détruisent et qui saccagent un lieu tellement magnifique. Et donc, je vais vous montrer un peu. À l'entrée, il y a une stèle avec une urne et il y a les 32 noms des victimes de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été assassinés à Auschwitz. La stèle que j'ai entièrement rénovée, qui était complètement pleine de mousse, comme toutes les tombes ici. Et donc, j'ai refait un parterre avec des dalles, j'ai fait un traitement anti-mousse, j'ai mis des petits cailloux blancs. Et donc, c'est la stèle où on se retrouve lors de la commémoration de la Shoah. Il y a une dame qui vient souvent ici et qui met des plumes à la place de pierre. Elle dit que les âmes de ces personnes qui sont décédées, c'est comme les oiseaux, ils s'envolent vers le ciel. C'est une dame d'un certain âge, qui fait plus de 80-85 ans. Et elle vient souvent ici et puis je l'accompagne puisqu'elle a du mal à marcher et puis on se promène dans le cimetière. En contrebas, vous avez une tombe que j'ai redécouverte il n'y a pas longtemps en nettoyant la forêt. C'est une tombe en forme de livre en marbre blanc de Carrare, qu'elle était complètement recouverte par les branchages et par les feuilles. Et c'est la seule d'ailleurs qui est en forme de livre sur ce cimetière. Et malheureusement, le cimetière a subi beaucoup de dégâts suite aux différentes tempêtes, puisqu'il y a des arbres. Je vais vous montrer un arbre là qui est vraiment un très bel arbre qui a près de 200 ans, qui est malheureusement tombé sur plusieurs tombes et qui a fait des dégâts, malheureusement. Et par contre, il y a énormément de tombes, de personnalités qui sont connues, les noms qui sont connus, comme Oppenheimer, un rabbin qui était à Saverne. Vous pouvez constater, c'est un des arbres qui est tombé. Et malheureusement, il a fait du dégât. J'ai passé du temps, mais j'ai tout enlevé, tout le bois. Malheureusement, les pierres sont par terre et puis c'est trop lourd, c'est impossible à soulever, quoi. On est à 3 veilleurs de mémoire, mais ils sont plus. Il y a un monsieur qui est plus âgé que moi, qui lui, il fait partie de plusieurs associations. Et donc, lui, il vient aussi, il se promène un peu de temps en temps. Et il y a un autre monsieur qui va venir, qui est plus jeune que moi. Je ne vais pas lui demander de faire des travaux, puisque les travaux, je les fais de ma propre initiative, puisque j'avais vu avec M. Rossano et M. Kahn. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vraiment magnifique ici. On ne peut pas rêver mieux. En plus, il fait beau, il y a un grand soleil magnifique, il est radieux. Et on entend les oiseaux. Et comme je disais, c'est un cimetière qui est quand même assez ancien, puisqu'il a été créé en 1632. Et il y a 800 tombes sur 1 hectare. Malheureusement, c'est un peu compliqué de se promener puisque Il y a des tombes en contrebas, près du canal, et c'est très pentu. Il n'y a plus personne qui vient, malheureusement. Il y a très peu de familles. Mais bon, il y a pour certaines familles, ils m'ont demandé d'entretenir leur tombe. C'est ce que je fais. Pour moi, c'est un plaisir. C'est vraiment quelque chose de... Bah, on sert à quelque chose. Et on est surtout là pour protéger des outrages de certaines personnes. J'ai déjà vu des gens un peu bizarres. Mais bon, la présence d'une personne qui vient régulièrement, elle est importante puisque... On voit s'il y a eu des problèmes, s'il y a quelque chose qui a été détruit. On rend compte au consistoire israélite à Strasbourg. On leur dit, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Là, il y a eu un enterrement il y a 3 semaines. Un ami qui a été enterré ici.
Vous dites un ami, vous avez des liens, vous, avec les membres de la communauté juive de Saverne ?
Oui. Je connais pas mal de monde. Bon, il y a Metzger André. Il habitait à Antibes, mais c'était un ancien pompier de Saverne que je connaissais depuis de nombreuses années, mais que, comme il habitait à Antibes, je l'avais perdu de vue. Il y a M. Metzger Dominique. Ses parents, ils sont enterrés là. Là. Et ils avaient un magasin de mobilettes et puis un grand magasin. Et nous, on a acheté mon premier tour de disque. Je l'ai acheté chez ses parents. La communauté juive de Saverne n'est plus tellement grande, mais les quelques personnes, je m'entends très bien. Les quelques familles qui sont encore là se sont devenues des amis parce qu'ils savent que je fais un beau travail. Et puis ils me le disent aussi, heureusement que tu es là. Parce que bon, là, ça c'est la tombe des parents de Alain Kahn, qui malheureusement n'a pas le droit de venir sur le cimetière. Donc moi, j'entretiens la tombe. Je ne le connaissais pas du tout avant, M. Kahn. Mais depuis que je suis porte-drapeau, on a créé un lien... et puis du fait qu'il est quand même le président de la communauté de Saverne, de la communauté juive de Saverne, et dès qu'il y a quoi que ce soit, et puis même si j'ai besoin de renseignements, et là il faut que je le remercie, parce que si j'ai besoin de renseignements, puisque je fais des visites guidées à des élèves, il y a des personnes qui se promènent, et puis donc je leur explique un peu, si j'ai une question à lui poser, je lui téléphone, je lui envoie un message, je lui envoie une photo d'une tombe avec une particularité, et puis il me répond dans les jours qui suivent. Et puis donc c'est vrai que c'est très important d'être soutenu par certaines personnes. Et donc il y a M. Rossano aussi qui vient de temps en temps. Et moi ça me motive de me dire je sers au moins quelque chose, même si je ne suis pas juif. J'ai pris des cours, j'ai appris beaucoup de choses. Et même M. Metzger Dominique, qui est juif, il m'a dit, Jean-Louis, tu es plus juif qu'un juif parce que tu connais plus plus de signification. Tu connais beaucoup de choses que beaucoup de juifs ne connaissent pas parce que nous ne venons pas au cimetière, nous n'avons pas les mêmes relations avec les morts que vous, les chrétiens. Et je dis, il ne faut pas oublier que les chrétiens, on est tous d'origine juive, puisque Jésus, il est né juif, il a vécu juif et il est mort juif. C'est pour ça, moi, je dis qu'on est frères. Dans toutes les religions, à partir du moment où l'être humain est assez intelligent pour vivre en bonne harmonie, et moi, l'harmonie, je le fais aussi avec la nature. Les âmes le rendent bien. Je leur parle de temps en temps. Quand j'arrive, comme là, M. Kahn, je leur dis bonjour, comment ça va? Et puis, je leur parle. Je leur parle comme s'ils étaient vivants. Et je pense que si quelqu'un m'écoute, ils vont se dire, oula. Le monsieur-là, il a un petit problème. À mon avis, il a quelque chose... Mais j'aime bien parler aux tombes, j'aime bien parler, leur dire bonjour, comment ça va, et puis je leur explique un peu ce qui se passe actuellement.
C'est le sentiment que vous avez quand vous en parlez autour de vous, de cette mission, et vous, j'allais dire, de cet investissement que vous avez ici au cimetière. On vous dit des fois, c'est quand même bizarre.
Ah oui. Il y a des gens qui me disent, c'est quand même bizarre que... C'est abandonné, il y a quelqu'un qui est là quand même pour surveiller. Et après, souvent on me pose la question, mais monsieur, vous êtes juif? Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il faut être juif pour surveiller un endroit qui appartient à toutes les personnes? Je dis non, je ne suis pas juif, je suis protestant, catholique, juif, et c'est mes origines. Et puis, si maintenant c'était un cimetière protestant, voire musulman, si on me pose la question si je peux le surveiller, je dis oui, pourquoi pas, parce que ces gens-là, ce sont des gens comme nous qui sont morts et puis ils n'ont plus le moyen de se défendre. Et nous, on est les gardiens, on n'est pas seulement des veilleurs de mémoire, mais on est les gardiens de leur paix, de leur dernière demeure. On dit bien que c'est un champ du repos, donc ils sont morts, mais on leur doit ce respect-là. Et moi, je suis là non pas en tant que gendarme, puisque je n'ai aucune prérogative, je ne peux absolument rien dire, Mais je leur dis, attention, c'est un cimetière, respectez les tombes, respectez les gens qui sont morts. Mais je suis en contact très étroit avec la gendarmerie. Si je vois qu'il y a quelque chose, ou si je vois un véhicule avec des gens suspects, je prends en photo la photo du véhicule. Et je vais à la gendarmerie, je leur dis, voilà, écoutez, il y a tel et tel véhicule avec des gens qui... Et c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui mettaient des caméras et qu'ils n'avaient pas le droit. Alors je leur ai expliqué que c'était une propriété privée, c'est un cimetière. Et en fin de compte, les gendarmes, ils leur ont téléphoné. Ils ont dit, écoutez, c'est une propriété privée, vous n'avez pas le droit d'installer des caméras. Je suis tombé déjà sur des gothiques et je leur ai demandé de respecter les tombes. Je ne peux pas leur dire sortez du cimetière, mais je reste avec eux, je discute avec eux, je leur explique. Tout le monde pense que c'est un endroit qui est abandonné, alors je dis absolument pas. C'est sauvage parce que ben, y a des arbres et il y a des particularités comme ici. Partout vous avez des tombes, sauf sur ce petit carré. Pourquoi il n'y a pas de tombe à cet endroit-là? J'essaie de chercher, je fais des recherches historiques, je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais il y a plein de choses que j'ai découvertes sur beaucoup de choses, puisque je suis d'une nature en plus curieuse. J'adore la nature, j'adore l'histoire. Je n'arrive pas à être devant une tombe et me dire « mais c'est qui ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce signe ?» Et donc, je vais souvent sur le site internet et puis je fais des recherches. Et donc, à la concubine, l'épouse de M. Metzger, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et M. Metzger aussi, il m'a aidé beaucoup dans mes recherches. Et donc Micheline, dès que j'ai une question à lui poser, je lui téléphone, je lui envoie les photos, il me répond, il me dit oui, effectivement, ça c'est telle et telle personne. Et en plus, elle est férue de généalogie, donc elle a une connaissance incroyable. Et donc elle m'explique, elle me montre, elle me dit tiens, ça c'est ça, donc cette personne-là, elle a fait ça. Mais il y a quand même encore des mystères sur... une tombe surtout, c'est celle de M. Mandel. Et donc c'est un monsieur qui était... un très grand voyageur. Il a la particularité, c'est qu'il y a sur sa tombe et celui de son épouse un buste féminin et masculin. Donc ça représente le couple réellement, comme ils étaient. Et ils se font face à face et ils se regardent dans l'éternité. Mais par contre, on ne sait pas grand-chose sur ce monsieur-là. La seule chose qu'on sache, c'est que son épouse, elle a mis au monde une fille, elle est morte en couche. Et donc, lui, il est décédé 14 ans après. Donc, il y a une tombe d'un rabbin Liberman. Et donc, là, le rabbin Liberman, il y a une particularité. Il y a une rue à Saverne qui s'appelle rue du père Liberman. Et le père Liberman était juif et s'est converti au christianisme. Et il a créé une congrégation religieuse en Afrique et aux États-Unis. Et souvent, il y a des gens de la congrégation qui viennent pour visiter le cimetière, puisqu'ils savent que le papa, monsieur Liberman père, donc le rabbin Liberman, il est enterré juste ici. Par contre, là, c'est pareil. Il y a trois tombes identiques. C'était un officier dans l'armée française, et le fils, pour rendre hommage à son père, a fait sur le portique, l'ancien portique, un linteau en grès. Il a mis une inscription en rendant hommage à son père, qui était officier de l'armée et qui avait la Légion d'honneur. Eh ben, les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont détruit. Et il est enterré juste ici. Et là, ils ont enlevé sa plaque. Alors, je pense que c'est les Allemands qui ont enlevé la plaque parce que je ne l'ai pas retrouvée. Et donc, il y a le père, la mère et donc le fils qui avait donc rendu hommage à son père. Ils sont enterrés juste là. Attention, là, il faut juste descendre là. C'est juste la partie un peu chaotique ici. Donc, ça, c'est la tombe donc, du rabbin Liberman. Et comme vous pouvez constater, il y a quand même... Bon, il y a beaucoup de tombes qui sont malheureusement par terre, mais comment voulez-vous relever ces pierres? Mais je les laisse comme elles sont, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont tombées à l'envers et les inscriptions sont protégées des dégradations. Malheureusement, il y a beaucoup de tombes où il n'y a pratiquement plus d'inscriptions puisque c'est très venteux ici, il y a beaucoup de neige, de gel. Mais les tombes qui sont à l'envers, donc... Ceux-là, elles sont protégées de l'outrage du temps. Alors là, vous avez aussi une particularité, c'est que vous avez une partie où il y a énormément de lévis qui sont enterrés avec les tombes, avec les cruches. Et il y a une partie un peu plus vers là-devant où c'est pratiquement que des kohenim, des kanes, qui sont enterrés. Le canal, c'est vraiment la frontière où le cimetière il se termine. Et comme vous pouvez voir, bon, on peut encore avancer un peu, il y a énormément de tombes dans la partie vraiment pentue. Et je me pose la question, comment ont-ils pu faire? comment ont-ils pu faire pour enterrer des gens? Ça devait être... Déjà aujourd'hui, c'est des pierres qui pèsent très lourdes, mais comment ont-ils pu faire? À l'époque, ils n'avaient pas de machine et tout devait être trimballé à la main. Et donc, vous pouvez voir, il y a beaucoup de lévis. Et donc, ici, c'est la partie la plus ancienne du cimetière, puisque l'entrée à l'origine, elle est juste là. On va passer dans quelques minutes. Et c'est la fameuse entrée qui a été détruite par les Allemands pendant la guerre, parce qu'il y a un monsieur, le fils, il a rendu un hommage à son père, officier, chevalier de la Légion d'honneur. Et donc les nazis n'ont pas supporté ça et ils ont détruit l'entrée et la petite maison en pierre de taille qu'il y avait. Et donc là, il y a plusieurs rabbins qui ont été enterrés. Là, il y a un rabbin dont un Allemand a tiré sur la tombe. On voit encore l'impact de balle. Puisque j'étais militaire, j'étais au Liban, Centrafrique, Djibouti, Éthiopie, Somalie. Mais j'ai toujours été ouvert à d'autres horizons. Et ça continue encore aujourd'hui.
Vous avez-vous des souvenirs d'enfants, de récits liés à la communauté juive de Saverne ou en général? Vous avez dit que vous avez beaucoup voyagé. Il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché?
Ben, au Liban, oui, ça m'a. Ben, que ce soit juif ou musulman, j'avais jamais quitté ma petite ville de Saverne. Et quand je suis arrivé là-bas, les attentats et tout ça, et je me suis dit, mais au nom de quelle religion a-t-on le droit de se massacrer? Alors, il y a les musulmans qui tuaient les chrétiens qui tuaient les musulmans, les juifs, bon, il n'y en a pas beaucoup au Liban, mais c'est vrai que ben, ça m'a beaucoup interpellé et ça m'a choqué. Et après, je me suis dit, faut quand même se dire une chose, c'est que l'être humain, pourquoi il s'entretue au nom d'une religion? Je trouve ça vraiment, surtout que dans aucune religion, toutes les religions d'ailleurs, ils disent qu'il faut aimer son prochain, il ne faut pas tuer son prochain, il faut respecter les uns et les autres. Et malheureusement, il n'existe plus. Ou quand l'homme est en guerre, quand il y a la guerre, l'homme devient une bête. Et même, je ne peux même pas dire une bête, parce qu'une bête, si elle tue, c'est pour se nourrir, pas par plaisir.
C'était Jean-Louis Porcher, veilleur de mémoire au cimetière juif de Saverne. Merci à lui pour ses actions et pour sa bienveillance.